L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans L'Aime, votre quotidienne sur le 100.4 FM qui vous fait entendre celles et ceux qui font notre territoire. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h et puis ce soir, c'est aussi la rediffusion et c'est à 18h. Vous pouvez nous écouter en direct et jeter un œil sur notre site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de nos productions sonores. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une partie de ma rencontre avec Odile Rago de l'association Saco Bivouac qui s'occupe de transporter les sacs des randonneurs. Mais ne vous fiez pas à cela car pour Odile, c'est un prétexte pour tisser du lien, présenter un territoire en dehors des sentiers touristiques, mais surtout d'apporter un soutien financier à diverses associations locales. Bonjour Odile.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Bon alors on est chez vous ce matin, un petit peu pluvieux en presqu'île de Crozon parce que bah, vous êtes à mobilité réduite et on a souhaité vous rencontrer et rencontrer Saco Bivouac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'association Saco Bivouac ?
Oui, alors tout d'abord c'est une association solidaire et inclusive. Alors, solidaire parce que, on aide un maximum les randonneurs, c'est un accompagnement de randonneurs. Et inclusive parce qu'on aide bien sûr les personnes qui ont des difficultés à marcher ou difficultés à porter les sacs. Et donc, ça leur permet de continuer leur prestation de randonnée, d'aller voir ce qu'ils ont envie d'aller voir sans. Avoir le poids et la difficulté du poids du sac.
Oui, parce que ça, c'est la grande difficulté quand on est randonneur, c'est
bien sûr,
évidemment
le poids du sac.
C'est rigolo, mais comment vous est venue cette idée de créer une association pour donner un coup de main aux gens qui portent leur sac ?
Alors d'abord, il faut savoir que moi, j'étais randonneuse, bien évidemment, mais j'étais randonneuse en montagne. J'ai fait le massif des Écrins, j'ai fait la Vanoise. Et puis, bien, le temps passe, le corps bouge. Voilà. Et donc, j'ai plus la possibilité de marcher comme je souhaitais. Et c'est une frustration. Il faut s'adapter, il faut l'accepter. Malgré tout, la randonnée, ça reste quelque chose. Je pense que quand on est randonneur, on a ça au cœur, on a ça au corps, on a ça en tête, et ça nous quitte pas. Et donc, l'idée c'était justement d'ouvrir la randonnée à des personnes qui ne la connaissaient pas, mais surtout de continuer à ouvrir la randonnée à des personnes où le champ se restreignait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça a été créé, en fait, et moi, je dis que il y a deux côtés positifs. Je suis quelqu'un de très, très positive. Ça a été créé à la suite, d'abord, de mon handicap, parce que mon handicap est né d'un accident du travail, où j'ai perdu, dans un premier temps, l'usage de mes jambes. Et c'est venu, ça s'est renforcé à l'époque du Covid, où on a été restreint justement. Et comme je suis quelqu'un qui rebondit et qui n'aime pas les contraintes et être mis dans les cases, etc., je suis un caractère comme ça. Je supportais pas le masque, par exemple, hein, c'est ne pas pouvoir parler, de pas pouvoir s'exprimer. Et la marche, c'est une façon de s'exprimer aussi. J'ai dit voilà comment on peut faire pour aller vers tous ces gens où on nous a restreint la possibilité d'aller voir les gens, comment on peut faire pour aller découvrir une région un petit peu plus que par ce tourisme d'un seul coup où il y a eu tous ces marcheurs qui n'avaient jamais marché et qui faisaient ça comme si c'était de la survie finalement. Et on a vu arriver des masses de monde. Et je me suis mise à accueillir des randonneurs à la maison, en leur laissant bien sûr le terrain pour mettre leur tente. Et on a commencé à discuter. On a commencé à discuter de ce qui de ce qui les faisait marcher, justement. Et je me suis aperçue qu'il y a autant de randonneurs différents qu'il y a de randonneurs. Il y a des besoins, il y a tellement différents. Ça peut être la tête, ça peut être le corps, ça peut être des envies de découvrir une région, mais aussi de la découvrir d'une façon différente. Voilà. Alors, bien sûr, découvrir le GR34, ça, c'est, voilà, c'est le Graal. Mais c'est aussi de découvrir un territoire à travers ses habitants, à travers ce qui fait ce territoire. Et ça, quand on est sur le GR34, on est sur le GR34, point. On découvre à travers les hébergeurs, bien sûr, hein, les hôtes, mais on a un temps limité pour faire les 120 km de la presqu'île de Crozon, par exemple. Et donc, grâce à cette association, on leur fait découvrir ce que nous on vit à l'année. Eux, ils y viennent pour un certain temps. Ça peut être 4 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être une semaine. Et il n'y a pas le temps matériel pour découvrir les problématiques et ce que l'on vit. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est enrichissant d'avoir à la fois les différents visages de la presqu'île à travers le paysage, mais aussi à travers nos commerces, à travers nos activités, à travers notre dynamisme, à travers les différences. Et ça, c'est intéressant de pouvoir voir ça avec eux, de pouvoir en discuter. Donc, en fait, le transfert de bagages, c'est presque un argument. Et derrière, il y a un vrai contact, une vraie discussion. Parce que l'ADN de l'association, c'est vraiment créer du lien, même si c'est avec des personnes que l'on ne voit pas longtemps, mais créer quand même un lien durable, parce que les randonneurs dont on s'occupe, on continue à les côtoyer, on continue à les contacter, et eux-mêmes continuent à nous contacter. Et les groupes qui sont venus une année reviennent une autre année avec d'autres randonneurs. Donc ça, c'est important. C'est créer du lien sur un moment qui est pas un moment en long terme, mais qui est vrai, un moment vrai.
C'est quoi exactement la randonnée avec vos mots à vous? Parce que j'ai presque les mots à moi je pratique pas la randonnée, je me promène sur les falaises. Et c'est vrai que quand on se promène, j'y suis allé là pendant les vacances de Pâques, et c'est vrai qu'on a tendance à se renfermer un petit peu sur soi-même à ce moment-là où on marche, et on pense à des tas de choses. Mais ça, c'est mon concept à moi. Mais c'est quoi le concept de la randonnée pour des randonneurs?
Alors justement, c'est là où c'est merveilleux, c'est que il n'y a pas un concept de la randonnée. Il y a tellement de, ça implique tellement de choses différentes selon les personnes. Vous avez des randonneurs. J'ai eu des petits jeunes là il y a une quinzaine de jours. Lui randonne pour aller voir tous les gens de théâtre, pour aller voir tous les gens qui travaillent pour le théâtre vivant. Et il s'est dit, je vais faire le tour de la France, donc pourquoi pas par le GR34. Et par les autres GR, bien évidemment. Ça peut être une quête de soi. Ça peut être découverte de paysages, effectivement. Il y a tellement de besoins et d'envies différentes à travers les randonneurs. On ne peut pas dire qu'il y a un stéréotype du randonneur. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Alors, on parle un petit peu du GR34, c'est le circuit de grande randonnée, c'est ça, qui se passe par le Finistère? C'est ça, où il est exclusif au Finistère?
Alors, il y a un peu plus. Hein. Non,
un peu
non,
plus.
Le GR34, il commence au Mont-Saint-Michel. Donc ouais. Voilà, ça c'est. Il y a quand même 2000 km hein, au niveau du GR34. Mais c'est vrai que notre partie fait 120 km à peu près.
À peu près, au niveau de la presqu'île.
Voilà.
Ouais,
voilà.
C'est déjà pas mal quand même.
C'est déjà.
Parce que la presqu'île, c'est pas bien grand à l'échelle de la France, voilà. C'est tout petit.
En fait, c'est les gens le font par portion. Vous avez aussi des randonneurs qui le font en continuité pendant 2-3 mois. Là, ici, en presqu'île de Crozon, on rencontre plutôt des gens qui font des portions. Voilà.
D'accord.
Et chaque ce qu'il y a de merveilleux en presqu'île, c'est que justement cette diversité, elle va jusqu'au bout des paysages. On passe de l'aulne maritime en partant en allant vers toute la partie le fret, après les Roscanvel, les fortifications, et le Goulet bien évidemment, hein. Ensuite on va aller sur les falaises de Pénir, sur la pointe du Tourlinguet, et là on va rentrer sur des choses un petit peu plus différentes, le château de Dinan et tout ce cap de la Chèvre magnifique, bon, avec voilà cette île vierge qui est très très connue, et puis bien sûr toute la partie, il faut pas l'oublier, toute la partie Morgat qui va jusqu'à Telgruc, avec la plage de Trezbelec, avec voilà, il y a des choses tellement différentes. Les gens ne s'ennuient pas, ne viennent pas simplement pour le cap de la Chèvre, ils viennent pour une continuité de paysage, mais en même temps les différences, et à chaque endroit ils puisent des choses différentes. L'Andévennec, c'est presque de l'introspection, voilà. C'est de la sérénité, il se pose souvent au loch. C'est un moment particulier. Voilà, c'est juste un moment particulier. Et puis il y a des moments d'éblouissement. Il y a des moments de découverte historique et de patrimoine, comme les fortifications. Et puis il y a des moments d'éblouissement avec la pointe de Pénir, avec ce côté particulier des tas de poids. Donc ça, c'est formidable. Mais ils ont aussi, grâce au fait qu'ils n'ont pas le sac sur le dos, la possibilité, par exemple, d'aller découvrir Ostudel, d'aller... voilà. C'est vrai que quand on est sur le GR34, on se dit, oh là là, oui, mais attends, s'il faut que j'aille vers l'intérieur, il faut revenir, hein, c'est particulier. Bon, n'en ayant plus le sac sur le dos, ils n'ont plus cette difficulté-là. Et ça, c'est important. En fait, avec sac au bivouac, on leur enlève tout le problème logistique. Faut savoir que avant qu'ils viennent ici, on discute une heure et demie avec eux, pour savoir d'abord qui ils sont. Et ça, c'est la première des choses.
Okay.
Qu'ils viennent de quelle région, quelles sont leurs expériences par rapport à la randonnée, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils sont venus rechercher. Et partant de là, on les accompagne à leur rythme. C'est vraiment eux qui sont les plus importants.
C'est-à-dire qu'on
ne leur fixe pas des horaires, c'est eux qui fixent leur propre rythme.
C'est-à-dire que il n'y a pas de programme, vous construisez un programme avec eux, ou c'est
oui,
eux qui
absolument.
Ont un programme et
Alors, il y a deux types principalement. Il y a ceux qui ont déjà préparé ça sur Internet ou grâce à des sites comme Itirando, par exemple. Je me suis aperçue qu'il n'y a pas tant que ça de randonneurs qui commencent par appeler les offices de tourisme.
Ça, c'est bizarre.
C'est étonnant. En fait, ils vont aller vers les réseaux sociaux. Ils vont aller vers des sites comme Itirando. Ils vont aller vers, bien sûr, la Fédération française de randonnée, bien évidemment. Hein. Mais étonnamment, l'Office du tourisme, ça arrive pas tout de suite. Ça arrive vraiment...
Quand ils sont à court d'idées, c'est vraiment ça?
C'est un peu ça. Et je pense que là, il y a un travail à faire. Des personnes que j'ai eues au téléphone et que j'ai découvert après, je pense que là il y a vraiment un point à faire évoluer, quelque part, ils commencent déjà par demander l'avis aux autres randonneurs, et donc sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous, on travaille avec eux. Soit ils arrivent avec, on a déjà fixé que le jour 1, on fera ça, le jour 2, on fera ça, le jour 3, on fera ça. Et on revoit avec eux par rapport à la logique de ce qu'ils recherchent. Soit ils arrivent en disant, on a du mal à trouver les hébergements, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche exactement. Et là, on travaille avec eux. On travaille avec eux en fonction de ce qu'ils ont envie, eux.
De leur budget aussi, j'imagine.
De leur budget, voilà. Alors, il y a deux principales difficultés. C'est un, le budget. Il faut savoir que tous les randonneurs n'ont pas 40-45 euros à mettre par nuit. C'est même souvent, et c'est même presque le randonneur pur, on va dire, avec sa tente. Il a quoi? Il a 20-25 euros à mettre par nuit, pas plus. Et c'est un problème aussi. Alors, ils ont les campings. Mais par exemple, pour les gens qui viennent en avril, les campings sont pas ouverts. Donc, ils ont les gîtes d'étape. Heureusement, il y a un gîte d'étape à Telgruc qui s'est ouvert. Les passagers 10 qui ont des tarifs qui conviennent aux randonneurs de passage. Il y a aussi, bien sûr, le gîte de l'Hermine à Saint-Ernaut. Il y avait effectivement les chambres de Léo Lagrange. Bon, malheureusement, c'est fermé. Le budget, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est parce que c'est en nuitée. Un randonneur, il ne va pas rester deux nuits au même endroit. Il va avancer. C'est de l'itinérance. Qu'il fasse vraiment en itinérance, c'est une nuit, c'est pas plus. Peut-être Morgat, oui, deux nuits, parce que le Cap de la Chèvre, c'est quand même un bon morceau, hein. Donc, voilà, en deux fois, bon, pourquoi pas. Mais le problème de la nuitée, c'est un problème récurrent. Dans certains campings, il y a des petites cabanes étapes, ça, il faudrait le développer. Alors, une cabane étape, ça coûte quand même... un certain prix, mais voilà, c'est son. Je pense qu'il faut il faut retourner à la simplicité pour pas mal de randonneurs. On n'autorise pas le bivouac, ça il faut le dire. On n'autorise pas le bivouac, c'est normal. On est en zone Natura 2000, donc voilà, c'est un point important. Donc il faut proposer autre chose. Qui soit pas forcément une chambre d'hôtel ou alors j'ai rien contre les hôtels, hein, j'en vois des randonneurs dans les hôtels, bien évidemment. Il y a des hôtels qui sont très très bien, le Thalassa, le Stivel, voilà. Pas faire de jaloux, je vais essayer de donner un petit peu tous les noms.
On n'y arrivera pas à donner tous les noms, c'est pas possible. Voilà. Puis nous excusez pour ça.
Voilà, le Poulmic, etc. Mais le randonneur pur, il a besoin d'authenticité en contact avec la nature. La chambre d'hôtel, c'est très bien, ça permet de prendre la douche, d'étendre, etc. Ils ont besoin de ça.
Mais ils ont aussi besoin d'autres choses.
Ils ont besoin d'autres choses, ouais. Voilà. Je pense que là-dedans, il faut travailler aussi la diversité. Et tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des choses que je découvre au travers des paroles des randonneurs. Et je pense que ça, c'est très important, le ressenti des randonneurs. Parce qu'on a fait des réunions il n'y a pas longtemps avec la Comcom, avec les intervenants du tourisme, pour savoir comment on peut progresser. Comment on peut arriver à amener des choses vraiment très cohérentes et très efficientes. Alors ça, c'est une chose, mais on en a discuté entre nous.
Ouais. Pendant que j'y pense, il y a un truc qui est quand même super important qu'il faut préciser, je pense, c'est que Saco Bivouac n'a aucun partenariat commercial, aucun deal
Absolument.
Commercial avec les hôtels, avec le logement de tourisme, on peut
Absolument.
Appeler ça comme ça. Ça,
voilà.
c'est important.
Voilà. Alors, nous, on avait un postulat de départ, c'est de fonctionner avec le minimum d'argent. C'est-à-dire qu'on
c'est jamais facile.
On ne demande pas de subvention.
Oui.
Déjà, c'est un choix. Hein. C'est un choix. On fonctionne avec un minimum d'argent parce que la voiture, elle a besoin de gasoil, elle.
Ouais,
voilà.
Donc, juste hein. de l'argent pour couvrir les frais
voilà,
nécessaires.
Voilà, voilà. Et donc, on ne fait pas payer de prestations, ni de carte d'adhésion. On ne fait pas payer des prestations.
Donc, quand les gens viennent vous voir ou prennent contact avec vous, vous faites des réunions d'une heure, deux heures, peu importe. Tout ça, c'est gratuit.
Ah oui. Complètement. Mais parce que on est des passionnés.
Voilà. Ah, vous êtes on parce que vous n'êtes pas toute seule?
Alors non, on est deux. Hein. Juliette, qui est, j'allais dire, ma copilote, on se connaît bien, on a travaillé sur d'autres associations ensemble. Moi, je suis, comment on va dire, la rondeur et elle, le côté carré. C'est-à-dire qu'elle a, elle a tout ce côté, il faut faire ci, comme ça, dans ce sens-là, etc. Et voilà, moi j'ai un contact un petit peu plus à la one again. Je dis souvent aux gens, je dis, bien sûr, moi tu me tutoies, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va se contacter, on va se voir tous les jours. Je les vois le matin, je les vois le soir. Juliette, elle est plus cadrée. Et c'est très bien, ça fait une complémentarité. Et ça fait une complémentarité déjà au départ. Et ça répond aussi à notre ADN parce que nous, on souhaite être une complémentarité, apporter autre chose par rapport à ce qui existe. Alors, ce n'est pas une concurrence, c'est apporter une vision un peu différente. Alors, quand je dis une vision, c'est tout simplement parce qu'on a, ce ne sont pas des prestations rémunérées. On laisse les randonneurs faire tout leur séjour. Et à la fin du séjour, je leur ai expliqué bien évidemment au départ.
Évidemment, oui.
Et à la fin du séjour, on leur dit, mais voilà, nous, tout ce qu'on demande, c'est un don minimum de 7 euros par bagage et par étape. Et ces 7 euros, pourquoi? Parce que il faut bien sûr mettre du gasoil dans la voiture. Et puis, il y a un petit peu d'administratif.
Oui, évidemment.
Voilà. Partons de là. Vous donnez ce que vous voulez.
Alors la vraie question, c'est est-ce que les gens, au final, donnent plus
oui.
que 7 euros?
Oui.
Or, on ne demandera pas combien,
oui, oui.
mais oui.
Alors c'est très variable et je le dis à chaque fois. Je dis, mais voilà, vous faites selon votre budget. Si vous n'avez que 7 euros par bagage et par étape, vous calculez que vous n'avez que ça comme budget, on ne se choquera pas du tout. Un don, c'est un don. C'est votre choix, c'est votre ressenti. Et c'est pour ça qu'on le fait à la fin du séjour. À la toute fin du séjour. Il y a même des randonneurs qui sont rentrés chez eux et qui ont fait le don une fois rentrés chez eux. Voilà. Il faut vraiment que ce soit... C'est un ressenti qui est important. C'est vivre une expérience. Voilà. Et ça, ils le gardent dans leur tête. Et quand ils ressentent quelque chose de sympa, qu'ils ont vécu quelque chose qui leur corresponde, on leur a apporté de l'énergie positive. Voilà. Moi, c'est et eux m'apportent de l'énergie positive. C'est en fait c'est ça. Moi, souvent on me dit mais non, mais Odile, tu veux pas qu'on te verse un petit quelque chose au départ franchement, tu veux pas quelque chose pour toi ou mais j'ai dit mais moi, mais ma plus belle rémunération, c'est leur regard et leurs yeux pendant le séjour et à la fin du séjour. C'est avec moi j'ai des gens qui sont repartis hein, en me disant dis on peut demander quelque chose bah oui bien sûr Tu penses qu'on a le droit de faire la même association dans notre département quand on rentre? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est du partage. C'est du vécu et c'est du partage. Et c'est du bien-être. Voilà, c'est tout ce qu'apporte la marche, mais avec voilà, un halo de plus. Voilà. Et en même temps, ces dons vont à des choses bien particulières. Alors, tous les ans, il faut savoir qu'on choisit des causes qu'on a envie de défendre. Et qu'on a envie de défendre, qu'on a envie, surtout envie de faire connaître aux personnes qui viennent ici, parce que elles le voient peut-être pas. On a envie de montrer que voilà, on est une presqu'île dynamique avec plein de gens qui font des choses et qui arrivent à faire des choses. Alors l'année dernière, on a parlé bien sûr de la soupape, qui est une association qu'on a défendu, dont on a parlé beaucoup, parce que c'est aussi des bulles de repos et des bulles d'hébergement pour des gens qui ont besoin de respirer.
Ça, oui. Vous en voyez beaucoup?
Ah oui. Oui. Ah, mais c'est clair, il y a un besoin énorme de ce côté-là, que ce soit les aidants ou pas. Ça peut être une personne qui a fait un burn-out, ça peut être une personne qui a vécu le harcèlement de son enfant durant l'année, ça peut être plein de choses. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la radio à transistor.bzh.